Quoi de neuf doc, le quatrième vendredi du mois sur Radio B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Quoi de neuf doc.
J'étais sur une idée de start-up, c'est Switch, solide.
Évidemment qu'il s'est planté avec son application.
Ouais, je vais finir bouché.
Mais j'ai eu un feeling qu'il fallait que j'aille vers quelque chose de plus fort.
Le cannabis va être légalisé.
Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ?
Une innovation qui allait changer des vies.
La boucherie Azan devient la boucherie Azan.
Une mission parlementaire a lancé une consultation citoyenne en ligne sur le cannabis dit récréatif. Selon un article du Monde de mars 2021, environ 250 000 Français ont répondu. D'après les résultats, 80% d'entre eux se disent favorables à l'autorisation de la consommation et de la production de cannabis dans un cadre régi par la loi. En parallèle d'autres chiffres, selon l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, le cannabis est la substance illicite la plus consommée en France, avec pratiquement un Français sur deux âgé de 18 à 64 ans qui déclare avoir déjà consommé du cannabis. La France est l'un des pays européens où la consommation régulière de cannabis est la plus importante. Mathieu Chapuis, vous êtes pharmacien hospitalier diplômé en addictologie. On entend parfois dire que le cannabis est une drogue douce. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que j'en pense ? En fait, tout dépend de comment on se place. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les gens font une dichotomie entre drogue douce et drogue dure. La drogue douce, en fait, c'est celle qui n'aurait pas d'impact sur le physique. Parce qu'en fait, dans une addiction, vous avez la plupart du temps une addiction psychique au niveau du cerveau. C'est le cerveau qui réclame. Et puis, vous pouvez avoir plus ou moins, en fonction des drogues, une addiction physique. Où ça, c'est le corps qui réclame. Et donc, sur ce point de vue, effectivement, le cannabis pourrait, je mets bien au conditionnel, être qualifié d'une drogue douce, puisqu'elle n'agit peu ou pas, en fonction des doses, bien évidemment, sur le physique, et c'est uniquement psychique. Donc, on pourrait dire. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup de gens disent le cannabis, c'est une plante naturelle. Oui, c'est vrai, mais ça, c'était il y a 5000 ans. Entre-temps, il ne faut pas oublier, l'homme, il est passé par là. Et donc, le naturel n'est plus si naturel que ça. Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, les trafiquants, si je peux dire, ont fait en sorte que la plante, qui contient différents cannabinoïdes, dont le fameux THC, tétrahydrocannabinol, qui donne plus d'effets psychiques, a été augmentée. Et donc, on se retrouve avec des drogues qui contiennent beaucoup de THC. Et donc, pour moi, on peut pas dire que c'est une drogue douce. En plus, faut pas oublier, en France, la consommation se fait comment ? Essentiellement avec du tabac. Et donc, le tabac, vous le savez, c'est une drogue, certes, licite, mais qui tue 75 000 Français par an, c'est plus que le Covid sur l'année 2020, et qui crée une énorme dépendance.
Avant qu'on rentre plus dans les détails, est-ce que vous pouvez revenir sur la composition du cannabis et nous expliquer de quoi il est composé exactement ?
Souvent dit le cannabis, déjà en plus le cannabis, il ne faut pas oublier, c'est une plante, mais c'est une famille de plantes, il en existe plusieurs, on parle souvent effectivement du cannabis sativa, mais il n'y a pas que cela. Et donc dans la plante, qu'est-ce qu'il y a ? En gros, comme toute plante, il y a des racines, vous avez une tige avec essentiellement des fibres, et puis vous avez des fleurs, et c'est dans ces fleurs-là qu'on retrouve les cannabinoïdes. Je dis les parce qu'il y en a une centaine. Alors effectivement, le plus connu, c'est le fameux THC, mais on trouve aussi le fameux CBD et bien d'autres, puisqu'il y en a une centaine. Mais on a aussi des flavonoïdes, des terpènes. Les terpènes, c'est ce qui donne le parfum, le goût. Donc voilà, donc en fait, c'est très complexe comme plante. Donc souvent, on dit le cannabis, mais en fait, quand on parle du cannabis, on parle plutôt du principe actif et d'un seul principe actif, voire deux parfois, donc souvent le THC et le CBD.
Et du coup, qu'est-ce qui fait que c'est une drogue en fait ?
Alors, en fait, en pharmacologie, on parle de drogue, en fait, qui est une molécule qui va se fixer sur un récepteur qu'on a présent dans l'organisme. Donc, faut pas croire que l'organisme a créé des petits récepteurs spécifiques pour le cannabis. En fait, on a dans notre organisme un système endocannabinoïde. Donc, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais notre organisme sécrète, entre autres, l'anandamide, qui est une molécule qui va se fixer sur nos récepteurs. Et il s'avère, en fait, que les cannabinoïdes de la plante, phytocannabinoïdes, c'est un peu le système clé serrure, vous voyez. En fait, ça va se mettre sur nos récepteurs et donc on aura les actions pharmacologiques. Donc, c'est pour ça, en fait, que ce cannabis marche si bien chez l'homme, plus ou moins en fonction des gens. Mais en tout cas, il marche bien là-dessus.
Et du coup, vous aviez commencé à en parler tout à l'heure, mais quels sont les effets, quels effets on peut noter de ces composants sur la santé?
Alors, il peut y avoir différentes actions. Alors, effectivement, il y a souvent l'action récréative, hein, on parle. Donc là, c'est effectivement plutôt relaxation, exacerbation des perceptions sensorielles, une ivresse, hein, qui est d'ailleurs souvent assimilée à l'effet psychoactif. Il peut, voilà, hilarité, stimulation de l'appétit. Mais on a aussi en fait un effet qui peut justifier l'usage médical. Je pense qu'on en reparlera. Donc tout ce qui est analgésie, antiémétique, il va augmenter donc l'appétit. Ça peut servir dans certaines pathologies. Bon, il a aussi un côté sédatif. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est effet indésirable, hein, donc ce qu'on ne cherche pas, qui parfois peut-être donc des dysphories, des attaques de panique, des crises d'angoisse, hein, qui peuvent être très importants. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. C'est souvent d'ailleurs les gens quand ils essayent une première fois, ils ont ces effets qui sont très importants. Ils appellent ça le bad trip. Et en général, ils n'y retouchent plus à ce produit. Voilà. Mais on peut aussi avoir des révélations de problèmes schizophréniques, donc une aggravation des états dépressifs avec une tolérance, une dépendance, qui peut parfois amener à des situations très compliquées, des suicides ou des choses comme ça.
Et justement, vous avez parlé de la question de la dépendance. C'est un autre lieu commun. Je l'ai entendu plein de fois. On dit qu'on serait moins dépendant au cannabis qu'à d'autres drogues. Est-ce que c'est vrai?
Alors, c'est en partie vrai. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction des drogues, elles ont un pouvoir de dépendance psychique et physique, plus ou moins en fonction des drogues. Et effectivement, l'héroïne, par exemple, hein, mais la cocaïne, d'autres médicaments, ont un pouvoir de dépendance supérieur. Et donc, on peut être effectivement un peu plus dépendant qu'au cannabis. Après, il ne faut pas oublier, c'est que le cannabis, je reviens, hein, il est associé en France quasiment exclusivement avec du tabac. Et là, par contre, le tabac apporte, avec la nicotine qui est dedans, énormément de dépendance. Donc, du coup, les gens, même si effectivement le cannabis, on pourrait peut-être l'arrêter peut-être plus facilement, il y a la dépendance au tabac qui a pu s'instaurer ou qui était déjà présente et qui, là, pour le coup, est difficile à gérer, mais gérable avec les médicaments à base de nicotine ou éventuellement des e-cigarettes. Bon, le mieux étant éventuellement les patchs et les pastilles, les gommes, ainsi de suite. Mais si les gens veulent utiliser la e-cigarette, c'est un bon outil de réduction des risques.
J'ai lu qu'il y avait quand même une inquiétude de la part des médecins, des professionnels de santé en lien avec les addictions sur les jeunes et leur relation au cannabis. A priori, les effets seraient peut-être plus importants chez les moins de 25 ans.
Alors, c'est vrai pour une raison en fait simple, c'est que le cerveau finit sa maturation vers 25 ans. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, de la naissance jusqu'à 25 ans, le cerveau va se développer. Puis ensuite, il va stagner, puis diminuer peu de temps après, alors plus ou moins rapidement avec les pathologies, ainsi de suite. Et du coup, quand on utilise des drogues, hein, peu importe qu'elles soient licites ou illicites, c'est-à-dire que ça comprend le tabac, l'alcool, le cannabis et puis d'autres, plus on les prend jeunes, plus en fait, on va dérégler tous ces systèmes. Parce que le cerveau, c'est une balance. Et du coup, elle essaye de chercher l'équilibre partout. Et quand on va apporter des substances exogènes, comme le cannabis, le tabac, l'alcool, on va déréguler tout ça. Et donc, chez les jeunes, plus on consomme jeune, plus ça dérégule, le cerveau, pour faire simple.
Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, on utilise le cannabis, il est autorisé, même par la loi, pour des usages thérapeutiques. Est-ce qu'on peut réexpliquer pourquoi ?
Le cannabis, en fait, on retrouve le cannabis, alors d'antan, bien évidemment, mais on retrouve depuis 5000 ans utilisé dans différentes différents usages médicaux. Et donc, puisque ça fait plus de 5000 ans, il a même été intégré en fait, hein, dans la pharmacopée en 1830, si je ne dis pas de mémoire. Il est sorti dans les années 1953 en France, puisqu'en fait, il a basculé vraiment de légal à complètement stupéfiant, illicite. Mais ce cannabis a des pouvoirs dans certaines douleurs, neuropathique, hein. Et donc c'est pour ça que l'ANSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, a décidé, on est un petit peu en retard, hein, là-dessus, hein, par rapport à différents pays, de pouvoir faire un usage expérimental sur 3000 patients pendant 2 ans. Donc c'est réservé à 5 indications thérapeutiques, c'est très encadré. L'idée n'est pas de faire un essai clinique, parce que ça, tous les autres pays l'ont fait, ça a été publié. L'idée, c'est de tester comment ça peut fonctionner en France, le circuit d'approvisionnement, comment les médecins vont le prescrire, comment les patients vont aller chercher en pharmacie de ville ou hospitalière. Et donc, pour l'instant, ça va être réservé aux douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies, hein, à tout plein de choses. Certaines formes d'épilepsie sévères, toujours réfractaires aux autres traitements qui existent. Des douleurs rebelles en oncologie, hein, voilà, une situation palliative dans les soins palliatifs. Et puis, tout ce qui est spasticité douloureuse de la sclérose en plaques, donc tout ce qui est lié au système nerveux central. Alors après, la difficulté, c'est qu'on estime qu'il y a à peu près 700 000 patients qui relèvent de ces indications et on va en tester que pour 3 000. Mais on avance. Alors certes, on est très en retard par rapport à d'autres pays, mais il faut bien débuter par quelque chose.
Du coup, cette action, vous l'avez dit, c'est une action sur le cerveau plutôt. C'est pour soulager des douleurs, mais ça agit sur le cerveau, on est d'accord ?
Alors, pas que, non, parce qu'en fait, il y a des récepteurs aux fameux, les fameux endocannabinoïdes, les récepteurs CB1 et CB2, on en a partout dans l'organisme. On en a dans le cerveau, mais on en a pas que dans le cerveau. Et donc, effectivement, pour tout ce qui est spasticité douloureuse, c'est pas au niveau du cerveau, ça va agir partout, bien évidemment, mais ça va agir absolument sur plein d'organes. Et donc, en fonction des effets, le risque, c'est qu'on puisse éventuellement avoir une amélioration sur les douleurs il y a la sclérose en plaques, hein, au niveau des muscles, mais qu'on puisse éventuellement aussi avoir des effets indésirables au niveau cérébral. Donc là, après, il va falloir trouver la juste dose. Mais donc, ça agit absolument partout. Hein. Le produit, il est très lipophile et donc il diffuse très bien dans les graisses. C'est pour ça souvent aussi que les gens sont très souvent, très longtemps positifs quand ils consomment du THC. Ils peuvent dire, mais attendez, je suis positif, mais je n'ai pas consommé depuis 2 jours, par exemple. Tout simplement parce que quand on consomme, quelqu'un qui consomme régulièrement du THC, qui décide réellement d'arrêter, il va pouvoir mettre jusqu'à 2 mois pour se négativer. Parce qu'en fait, ça diffuse dans les graisses et au fur et à mesure, les graisses relarguent. C'est pour ça qu'on en trouve beaucoup.
En introduction, j'ai parlé de la consultation citoyenne autour de la légalisation du cannabis à usage récréatif cette fois-ci. Derrière cette consultation, il y a des questionnements autour d'enjeux de société, économiques. Hein, on pense au trafic et à la délinquance qui peuvent être associés à ce trafic. En termes de santé, ce serait quoi les enjeux ?
L'idée n'est pas, à mon sens, de... Alors, en légalisant, on le voit avec le Canada, déjà, ça n'éradique pas tout le trafic, puisque sur le Canada, ça fait 3 ans qu'ils ont légalisé, et on en est à peu près à 50% des gens qui s'approvisionnent auprès de revendeurs agréés, entre guillemets, qui pourraient correspondre en France à un bureau de tabac. Ensuite, sur le plan santé, les gens pourraient trouver facilement en fait un produit de qualité pour un usage médical. Bon, l'intérêt, il est purement médical. On a beaucoup de gens qui consomment du cannabis à visée autothérapeutique pour différentes douleurs ou des choses comme ça. Pas d'ailleurs que dans des indications que je vous ai citées dans l'expérimentation. On a beaucoup de gens, par exemple, qui veulent se sevrer du cannabis et qui consomment du CBD. Ça marche pas tout le temps, mais parfois, ça fonctionne. Et donc, de pouvoir légaliser l'aspect, entre guillemets, un peu médical permettrait d'avoir des produits de qualité et d'éviter que les gens aillent sur le marché noir.
Et justement, aujourd'hui, on parle aussi de la crise des opioïdes. Hein. On voit plein de reportages, notamment on pointe du doigt les États-Unis. Est-ce que ce ne serait pas mieux de consommer du cannabis plutôt que de se mettre à des cachets hyper forts et des molécules dont on devient aussi dépendant finalement ?
C'est tout l'enjeu. Alors, ce qui est difficile, en fait, quand on fait des essais cliniques, c'est de montrer que ça fonctionne correctement, parce qu'en fait, chacun a un système endocannabinoïde, et donc ça marche pas chez tout le monde. Quand vous prenez un opiacé, par exemple, prenez la population générale, globalement, tout le monde va avoir les effets. Sur le cannabis, il y a une variabilité interindividuelle qui est très importante. Et donc, les Suisses, mais également les Israéliens, qui ont plus de 10 ans d'expérience dans le cannabis médical, sont incapables pour l'instant de dire « chez vous, ça va marcher, chez vous, ça va pas marcher ». L'idée, vraiment, c'est d'essayer. Quand on est en échec de ce qu'il y a dans les médicaments classiques, l'idée pour eux, c'est d'essayer le cannabis à visée médicale, hein, bien évidemment, et de voir s'il y a une amélioration ou pas. S'il y a une amélioration, c'est parfait. S'il n'y en a pas, ou alors que les effets indésirables sont trop importants, dans ce cas-là, malheureusement, on est obligé d'arrêter. Et j'ai envie de dire, c'est un échec de plus. Et donc, l'idée vraiment, c'est d'avoir des produits de qualité, parce que là, on a des produits qui sont très variables d'un produit à un autre. Et donc, si on passe en médicamenteux, entre guillemets, on aura un peu une qualité pharmaceutique, ce qui existe dans plein de pays et qui permet justement de pouvoir savoir sur quoi on agit. Parce que là, le produit que vous achetez dans la rue, il peut être très, très, très dosé, il peut être très peu dosé. Parfois, il n'y a pas de THC, on vient de le voir là, mais on met des cannabinoïdes de synthèse qu'on rajoute par-dessus. Donc, en fait, on ne sait pas ce qu'on a comme produit. C'est très difficile. Donc, avec un produit légalisé qui est en vente et qui est contrôlé avec des taux de THC, de CBD et éventuellement d'autres cannabinoïdes, on sait au moins ce qu'on a et ce qu'on fera.
Et pour les médecins, est-ce que dans la formation, c'est inclus cette étape? Est-ce qu'on parle de ça dans la formation des médecins ou des personnels de santé? Ou est-ce qu'il faudrait reformer les soignants à l'utilisation du cannabis comme médicament?
Pour l'expérimentation de l'ANSM, tous les professionnels, c'est-à-dire les médecins, mais également les pharmaciens qui veulent participer, ont une obligation de faire en fait une formation en ligne, e-learning, qui est faite par l'ANSM. Donc là, effectivement, qui dure 2h30 ou 3h, ce qui n'est pas énorme. Par contre, ce qu'il faut savoir, et d'ailleurs j'y suis inscrit, la fac de médecine de Paris-Saclay et de Montpellier a lancé ces deux, en janvier, un diplôme universitaire de cannabis médical. Donc, c'est en train de se lancer. Le cannabis arrive, la formation arrive. Et donc, c'est important de se former. Parce que moi, je reste persuadé, pour en voir pas mal, c'est pas un outil magique. Mais parfois, on a des vraies surprises. Alors, dans l'addiction, parce que je suis plutôt du côté addiction, mais également dans la douleur. J'ai eu quelques personnes à qui on a traité, alors en toute illégalité, puisque les produits ne sont pas disponibles, mais qui trouvent vraiment un intérêt et qui revivent. Et pour ça, je pense qu'il y a vraiment un intérêt. Pas pour tout le monde, ce n'est pas magique, hein, faut pas s'attendre. Ce n'est pas parce que c'est du cannabis que ça va être magique, que ça va marcher chez tout le monde. Mais chez certains, qui sont en échec de tout, on peut trouver vraiment un intérêt.
Finalement, comme plein de choses dans la vie, c'est pas tout noir ou tout blanc. On peut pas avoir un avis hyper arrêté sur le cannabis en disant c'est une drogue, on n'y touche pas. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes en fait finalement, mais il faut que ce soit encadré.
Tout à fait. Mais en fait, comme beaucoup de choses, puisque il faut pas oublier que tous les médicaments, enfin une grosse partie des médicaments que nous avons, sont issus du naturel. Et après, c'est parce qu'on les a encadrés qu'on en fait des médicaments. Et donc, c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a probablement pour certaines personnes un usage. Après, il faut que ce soit un usage thérapeutique. On a d'autres patients qui cherchent effectivement l'ivresse et la défonce. Là, clairement, c'est pas. Enfin, voilà, on n'est pas là-dedans.
Eh bien, merci pour ces informations.
De rien, merci à vous.
Pour avoir plus d'informations sur le cannabis et les drogues, je vous renvoie vers le site internet de l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Évidemment, vos médecins et tous les professionnels de santé sont à votre écoute si besoin de faire le point sur votre consommation. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Quoi de neuf, Doc ? Le quatrième vendredi du mois sur Radio B.